À votre santé. Cheers. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première du balado médical À votre santé, la médecine à la portée de tous. Je suis Eric Sabat, cardiologue dans la grande région de Montréal et ça me fait réellement plaisir de partager ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. C'est une expérience nouvelle pour moi, le monde du podcast. Je présume que pour plusieurs d'entre vous, c'est également un médium qui est nouveau, que vous allez découvrir. Eh bien, alors, on va le découvrir ensemble, on va s'enrichir, on va grandir ensemble dans cette expérience. Cette émission se voudra, bien entendu, surtout médicale et informative, mais bien entendu, elle sera intime et à votre écoute. Je serai là chaque semaine, accompagné d'experts, et je le précise, d'experts qui sont bénévoles. Ces experts vont nous parler de sujets de leur domaine, des sujets qui sont souvent de l'heure, choisis par vous, choisis par moi, choisis par l'actualité. Et puis, j'ai hâte d'avoir de votre feedback sur ma page Facebook, comme vous m'avez fait cordialement depuis les deux dernières années alors que nous parlons de Covid. Ces échanges vont me permettre de choisir des sujets futurs et de modifier l'émission à votre goût. Le premier sujet que j'ai décidé d'aborder est sur toutes les lèvres actuellement, et je parle de la vaccination Covid pédiatrique. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir chaleureusement le docteur Eli Haddad, qui est immunologue pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Eli Haddad, bonsoir.
Salut.
Salut, merci énormément d'être avec moi ce soir, après une journée de travail, une journée de réunion.
Ouais.
Bénévolement comme ça, là. J'apprécie énormément que tu sois parmi les premiers à dialoguer avec moi d'un sujet d'importance, un sujet de l'heure, la vaccination pédiatrique. Mais okay. avant tout, j'aimerais te présenter, un peu plus te connaître moi-même. Je vais être honnête avec toi, quand j'ai étudié la médecine, je ne savais même pas que l'immunologie était une spécialité médicale. Je ne sais pas d'où tu as eu cette idée de devenir immunologue, et quand on regarde la médecine avancée maintenant et tous les traitements à venir, on dirait que c'est une idée de visionnaire. Toute la thérapie immunologique qui arrive, c'est fabuleux. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ton cheminement? Et tu as débuté en France, tu as abouti dans un des plus grands hôpitaux pédiatriques ici. Alors, comment ça s'est passé, ça?
D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'était important d'accepter cette invitation parce que ce que tu fais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, est absolument colossal, c'est très important. Tu es beaucoup suivi, ta parole est très écoutée et tu le mérites parce que ce que tu dis est dans 99% des cas, j'allais pas dire 100%, dans 99% des cas, je suis d'accord, c'est profond, c'est recherché, c'est fouillé, donc je suis très content d'être avec toi.
Merci, Eli, merci.
Aujourd'hui pour discuter de ça. Donc, mon parcours, oui, en fait, moi, depuis que je suis petit, je voulais faire de la pédiatrie, comme je ne me rappelle pas d'avoir voulu faire autre chose, et particulièrement soigner le cancer des enfants, c'est marrant. Hein. Et donc, ouais. Je suis allé en cancérologie, et j'ai fait plusieurs stages de cancérologie durant ma spécialisation en France, et on m'a dit, tu sais, pour être bon en cancérologie, il faut aussi faire ce stage d'immunologie à la fin de ta résidence. Et je suis allé faire ce stage d'immunologie, et là, je suis tombé dans la Mecque de l'immunologie européenne et parisienne, c'est dans le service du professeur Alain Fischer, et j'ai adoré. J'ai eu une révélation. Et j'ai trouvé cette spécialité absolument fantastique. On soignait des enfants qui avaient des maladies du système immunitaire, des déficits immunitaires, des maladies auto-immunes graves, avec des mutations génétiques sur certains composants du système immunitaire qui nous faisaient vraiment comprendre comment ça marchait. Et je t'avoue que quand j'ai fait mes études de médecine, l'immunologie, je détestais ça, je ne comprenais rien.
Non,
les lymphocytes T, les lymphocytes B, mais comment ça marche? En fait, je ne comprenais rien parce qu'on nous l'expliquait mal. Parce que les gens ne comprenaient rien, donc difficile d'expliquer quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et quand je regarde mes cours de médecine, tout était faux. C'est simple, tout ce que j'ai appris à cette époque, au total, c'était n'importe quoi. Et donc, j'ai découvert l'immunologie, je suis tombé littéralement amoureux de cette spécialité.
Spécialité pédiatrique ou...
Au début, oui, c'était une spécialité que pédiatrique parce que les déficits immunitaires, ça touche surtout l'enfant, mais maintenant, il y a beaucoup plus d'adultes que d'enfants. Et donc, j'ai adoré cette spécialité. Je me suis spécialisé là-dedans en France, donc dans la grève des déficits immunitaires, puis dans les diagnostics et le traitement des déficits immunitaires. Puis après, pour expliquer mon parcours, j'ai fait donc 6 ans d'études de médecine, 4 ans de spécialisation en pédiatrie, 4 ans de labo, temps plein, entre une maîtrise et une thèse de sciences, et 4 ans de fellowship temps plein en immunologie.
Ah ouais, c'est
ça fait solide. Beaucoup de fois 4 ans. Hein.
C'est solide.
Et donc, après tout ça, figure-toi qu'en France, je devais aller dans cet endroit-là, la Mecque de l'immunologie, si je puis dire, et je devais prendre la place de quelqu'un qui devait partir dans un autre service. Cette personne n'est pas partie, personne que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Il a décidé de ne pas partir, et du coup, je me suis retrouvé coincé. Alors, comme j'étais coincé, on m'a proposé un poste en néphrologie, maladie du rein. On m'a dit, en me disant, il y a beaucoup d'immunologie là-dedans. Je dis non, moi, je veux faire d'immunologie. On m'a dit non. Il n'y avait pas de poste en immuno, donc tu ne peux pas. Donc, il faut que tu ailles en néphrologie. Essaye. J'ai essayé. Ça m'a plu un peu. Ce qui était immunologie, de la néphrologie, ça m'a plu. Mais le reste, ça ne m'a pas plu. Et donc, j'ai décidé d'appliquer à Sainte-Justine. Et quand ils ont vu mon CV, ils ont absolument décidé de me recruter. Ils sont même venus me voir, me rencontrer à Paris parce que j'hésitais avec ma famille. Wow. Et puis, je ne regrette pas parce que Sainte-Justine, c'est un hôpital fantastique. Donc, il y avait de l'immunologie à Sainte-Justine. Mes chefs de service m'ont dit, voilà, je vais bientôt quitter la retraite. J'aimerais que tu prennes ma place. Et donc, j'ai monté l'immunologie à Sainte-Justine, à la relève du docteur Normand Lapointe, qui, lui, avait monté un service déjà où il y avait beaucoup de HIV. Mm-hmm. Et donc, moi, je me suis occupé de l'immunologie clinique. Et j'ai aussi, après, en même temps, monté un laboratoire de recherche où on travaille sur l'utilisation du système immunitaire comme outil thérapeutique, si je puis dire.
Alors, tu as parlé d'immunologie clinique, c'est-à-dire que tu es proche de la clinique, tu vois des patients.
Je vois des patients. Pendant très longtemps, la moitié de mon temps, je voyais des patients.
Sur les étages, tu te promènes.
J'ai des centaines de patients que je suis en clinique externe, je me balade sur les étages, on me demande en consultation. On est un peu les Dr House de l'hôpital, tu vois, quand on ne comprend rien, on dit peut-être que c'est les immunos, ils vont nous aider. Puis aussi, des fois, on est énervé parce qu'on n'est pas appelé, alors que c'était notre spécialité. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé, c'est de l'immunologie Ouais, des fois on est énervant, je sais, mais on
est. Et est-ce que ça se croise avec les allergistes? Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors en Amérique du Nord, ceux qui apprennent l'immunologie, ils apprennent allergie et immunologie.
D'accord.
Mais il y a 90% d'allergie et 10% d'immunologie.
D'accord.
Et il y en a plein qui, les 10% d'immunologie, ils ne veulent pas en faire, ils font que de l'allergie. C'est très correct comme ça. L'allergie, c'est une très belle et très importante spécialité. Moi, en France, je n'ai pas du tout été formé en allergie. Je ne suis pas allergologue. Et donc, je suis venu faire que de l'immunologie clinique ici. Et donc, ça se marie bien avec la rhumatologie, ça se marie bien avec l'hématologie, ça se marie bien avec l'infectiologie, parce que c'est des malades qui ont des problèmes immunitaires, donc ils font des infections et ils font des maladies auto-immunes.
Donc, quand on parle de vaccination, on parle clairement d'un processus immunitaire.
Quand on parle d'une infection virale, on parle... Qui est-ce qui va se battre contre le virus? C'est le système immunitaire, donc voilà. L'immunologie, on est en plein dedans. Et quand on parle de vaccination, ben oui, la vaccination, c'est... utiliser ce système immunitaire pour le stimuler en lui faisant croire qu'il y a une infection, de façon à ce qu'après, quand il y a la vraie infection, eh ben, l'organisme, grâce à son système immunitaire, il va empêcher que l'infection gagne.
Super, bah alors on est bien servi.
Ouais,
là, alors,
si tu veux parler de Covid avec moi, là, t'as qui il
faut. On va parler de Covid. Je vais être honnête avec toi, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup parlé de Covid depuis 2 ans, mais tout le volet pédiatrique, soit que je n'ai pas cherché à l'entendre, ou que j'ai trouvé qu'on en parlait moins. Bien entendu, c'est clair qu'on va y revenir, que les enfants sont moins malades, et je crois qu'ici, au Québec, ils l'ont été encore moins qu'aux États-Unis parce qu'ils ont été un peu protégés par la vaccination des adultes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, je pense.
Alors,
comme toi.
C'est pour ça qu'on a peut-être entendu moins parler, mais je suis sûr que, malgré qu'on en a moins entendu parler, dans les hôpitaux, il y a probablement des histoires à... vécu, des histoires racontées. Il s'agit de... Je ne peux même pas m'imaginer mon enfant être admis à l'hôpital dans la période Covid si on traitait les parents comme nous avons fait au début avec les membres de la famille, c'est-à-dire qu'on les empêchait de visiter, etc. Je ne pouvais même pas imaginer qu'est-ce que ça pouvait être d'avoir un enfant rentrer à l'hôpital pendant la période Covid et de ne pas pouvoir l'accompagner. Je présume que les parents, c'était différent dans vos hôpitaux.
En fait, tu as dit beaucoup de choses. D'abord, il y a plusieurs côtés fascinants. Il y a le côté pédiatrique, on va en parler. Il y a le côté immunologique, c'est très important, oui. Bien entendu. Mais tu sais, revenons au début de la pandémie. Au début de la pandémie, on entend parler de ce virus et un nouveau virus respiratoire. Moi, là, je panique. Je me dis, merde, c'est pas possible. Ça va toucher les personnes âgées et les enfants. Ça ne peut pas être autrement. Les enfants sont particulièrement fragiles au nouveau virus respiratoire. Donc, ça ne va pas le faire. Ça va être dramatique en pédiatrie et pour nos malades qui ont des déficits immunitaires, ça va être, pardonnez-moi l'expression, l'hécatombe. J'étais vraiment très très mal. Premier article qui sort dans New England, article de chinois, donc de patients chinois, que des adultes. On n'a rien compris. On était très contents. prise oui, pour les, oui, prise pour les personnes âgées.
Comme pédiatre, bien sûr.
Comme pédiatre, on était très contents parce que imagine le bordel que ça a été. Imagine le bordel que ça a été. Alors que ça ne touche que, entre guillemets, les personnes âgées au début, c'était ce qu'on disait, mais ça touche surtout les personnes âgées, d'accord ? Imagine le bordel sociétal que ça a été. Imagine maintenant la même histoire avec les jeunes enfants malades et mortellement malades.
Ah ouais, c'est
la fin du monde. La panique.
Je sais pas si c'est la fin du monde.
Et peut-être que tout ce qu'on est en train de vivre là va nous sauver d'une prochaine pandémie qui, j'espère, ça n'arrivera jamais, mais va peut-être être plus grave et où on saura mieux quoi faire et on aura plus d'armes pour se battre. Notamment grâce au vaccin ARN, on va y revenir, mais c'est le truc génial du siècle. Ça. C'est absolument génial.
Moi aussi, depuis
absolument
le début.
Génial. Je te raconte une anecdote. Je précède tes questions.
On est là pour ça.
On est un mois, deux mois que la pandémie a commencé, donc tout le monde commence à prendre ses rôles. Moi, je me retrouve dans un groupe, surtout où on nous demande notre avis sur les traitements, ok ? Et j'ai un collègue et ami de Sainte-Justine qui se retrouve dans un groupe où on décide des vaccins. Et donc, on se croise dans le couloir, on se voit, tu vois, on a presque envie de s'embrasser, mais on s'embrasse pas parce qu'on se voit plus, on est enfermé dans nos
absolument,
bureaux, d'accord
oui.
Ah, ça fait plaisir de te voir, puis on se parle un peu et tout. Et je dis, alors, ça en est où ? Il me dit, ça y est, on est en train de se décider au Canada. Ils vont se décider à miser sur des vaccins, parce que tu sais, on mise. Je dis, ouais, alors, ils choisissent quoi comme vaccin ? Et il me dit, apparemment, des vaccins à ARN. Là, je le regarde, je dis, quoi ? Mais ils sont fous. Mais sérieux, je lui dis, mais...
Sérieux, c'était ta réaction ?
Mais sérieux, ils sont fous. Il me dit, pourquoi tu dis ça ? Je dis, mais parce que les vaccins à ARN, c'est le rêve, mais ça ne marchera pas. Tu entends ce que je dis ? Ça ne marchera pas. À aucun moment, j'ai dit, ça va être toxique. Ça ne peut pas être toxique, un vaccin ARN. C'est le plus petit truc qui soit possible en biologie, l'ARN.
Oui.
C'est la plus petite partie possible d'un virus qu'on puisse utiliser. Après, je vais revenir là-dessus. Okay mm-hmm. Donc, je lui dis, mais non, ils sont fous. Et il me dit, non, mais tu sais, il y a une nouvelle compagnie, BioNTech, avec Pfizer. Apparemment, ils ont trouvé un moyen. Parce que je lui dis, tu sais, l'ARN, tu souffles dessus.
Ça se détruit tout de suite.
Moi, je fais de la recherche au labo, on sait très bien l'ARN, tu dois mettre des gants, on doit le prélever dans des tubes spéciaux, c'est chiant l'ARN, c'est fragile, on sait que ça ne vit pas l'ARN, on le sait, c'est une galère et c'est pour ça que personne n'y arrivait.
Et ça fait des années qu'on essaye.
Oui, ça fait des années. Il me dit non, ils ont réussi, un truc lipidique, ça marche. Je dis, oh la vache, s'ils ont réussi, alors tu sais quoi, c'est une idée
ça
de génie.
Tout.
Ça change tout. Ouais. Mais à aucun moment, j'ai eu le doute que ça allait être safe. Ça ne peut pas ne pas être safe.
Ça ne peut pas ne pas être safe.
Alors, je vais t'expliquer pourquoi ne peut pas ne pas être safe. Je vais dire un truc très je le pense profondément sur les anti-vax et tous les gens qui ont peur. On prend un peu les gens pour des cons. Pourquoi ? Parce qu'on n'ose pas leur expliquer la biologie. L'ensemble, les médias, tout le monde, même moi, y compris moi. On n'explique pas la biologie. Comment on sait, nous, que le vaccin, c'est bien ? Comment on sait que l'ARN, c'est safe ? Comment on sait tout ça ? Eh bien, parce qu'on réfléchit en fonction de ce qu'on connaît en biologie. Ben, la biologie, ça s'explique. Et on l'a complètement... faut le démystifier. Ça s'explique. Moi, si j'ai été capable de comprendre, tout le monde est capable de comprendre. Et en plus, au début, pendant mes études de médecine, pardonnez-moi les gros mots, ça m'emmerdait, ce truc-là. Je voulais faire de la clinique, je voulais pas faire de la biologie. Ben, je me la suis bouffée, la biologie. Je disais quoi ? C'est important. Comment ça marche ? Un virus, t'imagines une boule, une balle de tennis avec des spicules au-dessus, là, tu vois, les trucs qui rebondissent.
Oui.
Et en plus, en plastique, là. Et en plus, tu le prends, que le spicule, on va y revenir après. Il est flasque, il tient pas droit, il est flasque, ok. Et grâce à ce spicule, il s'accroche à une cellule et il rentre dans la cellule. Mais le virus, lui, il est tout petit, ok, par rapport à une cellule, c'est minuscule. Et son seul objectif, c'est de se reproduire. Mais il n'est pas capable tout seul de se reproduire. Donc dans sa structure, il a une enveloppe et à l'intérieur, il a de l'ARN. Et l'objectif de l'ARN, c'est d'utiliser le système de la cellule, de la pirater, pour que la cellule fasse que l'ARN se transforme en protéines, ces protéines dont il a besoin pour vivre, qui vont faire sa structure, ses spicules. Mm-hmm. Et une fois qu'il s'est multiplié des centaines et des centaines de fois dans la cellule, pouf, il se casse.
Il détruit la cellule.
Il l'a fait exploser, puis hop, il va en coloniser d'autres. Et je me reproduis comme ça. Ok ?
Oui.
Saloperie.
Oui.
Mais tu as bien entendu ce que j'ai dit, c'est une petite boule dans laquelle à l'intérieur, il y a de l'ARN.
De l'ARN, oui,
l'ARN.
Absolument.
Oh là là,
dans ce cas-là.
L'ARN, ok ? Parce qu'il y a des virus à ADN aussi.
Oui.
Donc, il y a de l'ARN. Mais cet ARN, il en a plusieurs séquences, une trentaine, une cinquantaine, je ne sais plus par cœur, mais je crois que c'est 32, imaginons que ce soit 32, peu importe. Et une de ces séquences d'ARN, c'est celle qui va coder pour ces fameuses spicules.
Exact.
Okay. Quand on rencontre un virus, on rencontre cet ARN, plus tous les autres ARN, plus la spicule, plus l'enveloppe, on rencontre la balle de tennis en entier.
Absolument, ouais.
Alors, comment on faisait avant pour les vaccins? Eh bien, tu as des vaccins où on utilise la protéine, genre que le spicule, mm-hmm. ça aurait été une très bonne idée.
Mais on se revoit dans deux ans.
Bah ouais, on aurait eu beaucoup plus de morts depuis. Il y a des mecs qui ont bossé là-dessus, mais bien sûr, il faut. Oui, c'est oui. essentiel. Mais putain, c'est long.
Oui.
Ok.
Oui,
c'est long. Mais il y a des gens qui ont bossé dessus. Mm-hmm. Ok. Donc il y a la protéine. T'as une autre façon, c'est de prendre le virus en entier et de l'atténuer de façon à ce qu'il soit pas
toxique.
Mais il est en entier. Et donc il y a tous les ARN qui sont à l'intérieur. Mm-hmm. Plus toutes les protéines. Il y a une autre façon, c'est de prendre, comme ils ont fait AstraZeneca, un autre virus
oui.
dont on sait qu'il est safe.
Oui.
Okay, mais il a quand même plein de trucs. Mais... L'autre virus, c'est plein de choses. C'est un virus entier. Hein. C'est une boule.
Exact. Okay,
une boule entière.
Oui.
Pas un petit truc à l'intérieur de la boule. La boule entière.
Oui.
Mais à l'intérieur, on va lui changer une partie de son ARN et on va lui mettre de l'ARN de la spicule, de façon à ce que le système immunitaire s'immunise contre la spicule. Mm-hmm. Okay, c'est très intelligent. Sauf qu'il y a plein d'autres trucs. Et le système immunitaire, lui, quand il voit arriver un virus, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va se protéger contre tout ce qui bouge. Tout. Il va faire des anticorps anti-spicule, anti-ceci, anti-cela, anti-la protéine machin chouette. OK ?
Oui.
Mais nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est les anticorps anti-spicule. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que le virus, il rentre via les spicules. Donc, si tu bloques les spicules, le virus ne peut plus rentrer. Donc, il y a des mecs géniaux qui ont dit, tu sais quoi ? On va prendre que de l'ARN. Et on va prendre l'ARN que du spicule parce qu'on a eu la séquence grâce à ce chercheur australien qui l'a diffusé sur Twitter en janvier. Il a donné la séquence au monde entier. C'est un truc de fou. Dix jours après, les mecs, bam, ils ont décidé de faire le vaccin sur ça parce que c'est ça qui était important dans le virus. Mm-hmm. Donc, on a pris la plus petite partie possible. Tous les antivax, ils nous saoulaient en disant « Ouais, il y a de l'adjuvant et puis ça stimule le système immunitaire. » Ils ont raison, ça stimule le système immunitaire. Là, on le stimule avec la plus petite partie possible.
Exactement.
On ne fera jamais plus safe que ce truc.
Il n'y a pas de transporteur viral, il n'y a rien d'autre.
Du moment où tu veux vacciner, le vaccin ARN, c'est le plus safe. Alors, on va dire c'est la première fois. D'accord, mais avant, quand on injectait du virus pour faire un vaccin... Il y avait des tonnes d'ARN dedans.
Je comprends 100%.
OK, donc comme
biologiquement, c'est clair que
tu veux que je te
dise
dans notre corps combien de milliards de particules d'ARN on a.
Oui, exactement.
Donc on est en permanence confronté à de l'ARN, donc on s'en fout. Alors on dit ouais, mais t'es pas confronté, t'es donc confronté dans les voies respiratoires. Là, on t'injecte dans le muscle. Ah ouais ? Et puis alors les autres vaccins, on les injecte où ? Dans le nez ? Certaines fois dans les oreilles, sérieux, on les injecte dans le muscle aussi.
Oui.
Donc on sait ce que ça fait une réaction immunitaire quand on injecte un muscle. Sauf qu'au lieu d'injecter une protéine, on va injecter l'ARN. Alors tu as des cellules dans le muscle qui captent l'ARN, et puis le système immunitaire, il va s'immuniser en disant « Oh là là, c'est quoi ce truc ?»
Bon, d'après toi, quand on injecte dans le muscle, la réaction immunitaire, la synthèse de protéines, Spike, elle est locale ?
Oui.
Ou elle peut être systémique ?
Non, elle est locale.
Elle est locale.
Elle est locale. Et les cellules sont bien faites. Dès qu'il y a de l'ARN qui rentre, elles se disent « c'est un virus ». Ce n'est pas mon ARN, c'est un virus. Et donc, elles stimulent la réaction inflammatoire. Et elles appellent à la rescousse le système immunitaire. « Viens ici, viens gérer ça. Il y a un virus qui est rentré dans moi. Viens m'aider. » Il y a les cellules qui arrivent et qui vont gérer ce truc. Ils vont reconnaître cet ARN ou la protéine qui est fabriquée comme
exact.
Étrangère. Okay. Et ils vont appeler à la rescousse des lymphocytes T et leur dire « Hé, les copains, là, ça, là, c'est un virus. » Il faut absolument qu'on fabrique une mémoire de ce truc-là. C'est pas possible. Ça
donc,
rentrait une fois, ça rentrera pas
deux. Donc l'idée que la protéine spike, disons qu'on fabrique, puisse circuler, puis aller se promener dans les organes, je sais que ça vient complètement de données animales. On a perfusé des quantités phénoménales.
En intraveineux.
En intraveineux.
Oui, mais c'est pas pareil.
Donc c'est pas du tout le cas de la vaccination.
En intramusculaire. Et même, tu sais quoi ? Je vais aller plus loin. Ok, fais-moi circuler de l'ARN du virus. Mais quand j'ai une infection au virus, tu sais, les kilotonnes d'ARN qui circulent dans mon corps parce que j'ai une infection au virus.
Exact.
Donc on a le choix. Soit on va attraper le virus, soit on va avoir le vaccin. Si on avait un truc pas contagieux, on s'en foutrait. C'est hyper contagieux. Donc si on n'est pas vacciné, on va tous l'attraper.
Mais c'est ce que les gens oublient.
C'est ce que les gens oublient. Donc vous n'avez pas le choix.
Il faut choisir entre les deux.
Vous n'avez pas le choix. Je vais échapper à tout ça. Non, vous n'allez pas échapper à tout ça. Vous allez avoir soit le vaccin, soit le virus. Qu'est-ce que vous voulez ? La grosse balle de tennis avec tout ce qui vient avec ? Ou juste à l'intérieur de la balle, un petit morceau d'ARN qui vous empêche que la balle rentre dans vos cellules ?
Ouais.
Sérieux ? Je ne comprends pas comment on peut choisir autrement. Je ne comprends pas comment on me dit « Mais moi, j'attends un vaccin plus safe. » Non ! C'est le principe de la vaccination qu'on aurait pu me dire. Je veux qu'on me démontre que le principe de la vaccination a déjà marché. Ben ça, on l'a déjà démontré dans l'histoire de l'humanité. Le principe de la vaccination, ça marche.
Et, alors,
du moment où ça marche... trouve-moi la plus petite partie possible pour me vacciner. Ben, on vient de la trouver.
Quand tu dis les complotistes...
Non, je vais être honnête encore.
Non, c'est mais toi qui dis les... Ouais, je dis les complotistes, mais je vais être honnête avec toi. Beaucoup de ces complots ont débuté par des médecins, par des propos de médecins.
Ouais. La loi du nombre, je vais t'expliquer un truc. Allez, on commence avec Raoult. T'es prêt? T'es prêt? On attaque?
Attends, j'étais le premier à attaquer Raoult. Hein, on attaque. Et je me suis... Je peux te dire mon anecdote, moi? J'étais sur le métropolitain en train de conduire et je regardais Twitter où un premier Italien jeune, pathologiste, avait dit qu'il avait constaté lors d'une autopsie des microthromboses. Et j'ai dit, waouh, je vais tweeter ça, je vais envoyer tout de suite, je vais faire un live dans la voiture. Et là, j'ai été capté par un Français, mais je ne savais pas, il avait 100 et quelques mille followers pro Raoult. Et moi, malheureusement, quand ils sont allés voir ce que j'avais dit préalablement sur ce que je pensais que Raoult faisait, j'ai été inondé d'insultes et vraiment des propos. Alors là, tu veux parler de Raoult.
Je veux parler de Raoult.
Vas-y.
Quand je dis on va attaquer Raoult, c'est on va attaquer le sujet Raoult. Ok. Didier Raoult est quelqu'un de très connu en microbiologie. Il se présente comme dans le top 10 mondial, lui-même.
Toujours.
Okay. Toujours. Ok. Allez, on va prendre les 1000 meilleurs micro-infectiologues du monde. D'accord? Les 1000, je suis gentil. Les 1000.
Oui.
Il y a Raoult dedans, on est d'accord? Il se met dans les 10. Il est dedans.
Oui, bien sûr. Oui.
Il est dedans.
Mais
parmi
pas,
les
1000, en fait,
moi je le dis, il est dedans. Okay.
D'accord.
Admettons.
D'accord.
Il est dedans. Parmi les 1000 premiers, les 1000 meilleurs, les 1000 les plus sérieux, les mecs qui ont trouvé des trucs, qui connaissent bien leur métier et tout, il y en a 999 qui pensent A et 1 qui pensent B. Tu préfères lesquels? Et puis réduit comme ça, va même jusqu'à 10 meilleurs. Dans les 10 meilleurs, imaginons que ce soit dans les 10 meilleurs. Il y en a un qui dit blanc et les 9 autres qui disent noir. En cherchant la probabilité de qu'est-ce qui est le plus probable. C'est pas français ce que je viens de dire, mais t'as compris.
J'ai compris.
Tu vas choisir celui qui dit un truc ou les 9 autres qui disent
mais
le contraire.
Mais on les a pas beaucoup entendus, les 9 autres.
Mais c'est ça
c'est
le problème.
C'est la faute des médias, c'est quoi?
C'est ça le problème.
C'est les réseaux.
C'est la faute des médias, des réseaux sociaux, le fait aussi que comme on dit, des shitstorms que tu t'es pris là.
Oui.
Dès que tu t'exprimes, tu te fais déchirer. Il y a plein de gens qui
t'as
pas envie, tu te fais menacer.
Oui.
Moi j'ai peur si ça se trouve.
J'ai jamais vécu ça.
Si ça se trouve, suite à ce podcast, je vais me faire menacer. Mais il y a un moment donné où il faut qu'on ait plus peur de sortir et qu'on dise les vérités. Donc j'ai rien contre Monsieur Raoult. Moi, à la base, en mars 2020, je ne sais pas qui a raison. J'entends un qui dit blanc et plein d'autres que je connais aussi très bien, qui sont parmi les tops aussi, qui disent exactement le contraire. Ben, tant que je n'ai pas des datas, je vais suivre la loi du nombre. Puis ils commencent à proposer un traitement que je connais bien. La chloroquine, ils commencent chloroquine, puis le lendemain, ce n'est plus la chloroquine, c'est l'hydroxychloroquine. Juste ça, là, tu vois, juste ça. Le fait qu'en 24 heures, il ait changé le nom de la molécule,
Pas normal.
J'ai un problème de fiabilité, j'ai un problème de crédibilité. Je me dis, bon, ok, imaginons, il s'est pas bien, il a confondu l'un à l'autre, et puis il y a tous ces médias, la télé, ça doit être chaud et tout. Bon, ben, on a eu des réunions avec l'INES où on se disait, mais comment on va protéger les malades qui sont sous Plaquenil, parce qu'il y en a qui en ont besoin, mais s'il y a une demande très forte de Plaquenil, quels sont les malades à qui il faut absolument réserver le Plaquenil, parce qu'il va falloir donner le reste du Plaquenil à ceux qui ont la Covid. Donc on était prêts à y aller dans le Plaquenil, mais on aurait adoré que ça marche. Ok, ça a failli être une idée de génie. Ce n'était pas une idée de génie. Ça n'a pas marché. Moi, je ne lui reproche pas d'avoir une idée. Personne ne lui reproche d'avoir une idée. Ce que je reproche, c'est de ne pas l'avoir bien testée.
Oui, absolument.
Il aurait fallu la tester bien, scientifiquement, contre un placebo.
Exactement.
Pour être certain si ça marche ou pas. On me dit, ouais, ce n'est pas éthique d'utiliser un placebo. Mais alors quoi? On fait comment? On utilise du coup, on se dit, ouais, ça va marcher.
Alors ça, c'était son message.
Alors moi, j'étais
curieux.
Plus tocilizumab. Alors tout le monde aurait dû m'écouter et mettre du tocilizumab sans faire des études contre placebo. Il s'avère que le tocilizumab marche. Moi, je suis immunologue. Et j'ai dit d'emblée, le tossi, ça devrait marcher. Ben, ça marche beaucoup mieux que le Plaquenil. Mais je n'ai pas à embêter la Terre entière en disant, vous êtes tous des ânes battés, c'est absolument ça qu'il faut faire, et puis il n'y a pas besoin de faire des études contre placebo.
Oui, non. C'est le dialogue qu'il a eu, sincèrement, je ne le connaissais pas auparavant, mais ce n'était pas un dialogue scientifique.
Non, ce n'était pas un dialogue.
C'était un monologue, effectivement. Mais
ça fait peur à tout le monde, on n'a pas l'habitude de ça en science.
Et bien sûr, le désespoir d'absence de traitement efficace, il en a profité. Et en fait, je ne sais pas si c'était de sa volonté, mais il faut dire que c'est peut-être les réseaux aussi qui l'ont monté, puis c'est monté à sa tête,
c'est
et puis il ne pouvait pas reculer.
C'est triste, mais il va falloir retenir les leçons de tout.
Alors,
ça.
Il y en a une autre qui va peut-être énerver, parce que je vais te faire écouter certains clips. Oui. J'aimerais que tu commentes, parce que ça touche directement
ce soir, t'as décidé
le système immunitaire. Alors, j'aimerais que tu écoutes. Alors, on parle de la généticienne. Henri Encaude. Alors elle, bien sûr aussi, elle a tourné beaucoup dans les réseaux de complotistes, mais elle se présente comme généticienne. Elle parle d'immunité, d'immunologie, et je ne pense pas qu'elle...
Mais avant même que tu passes le
oui,
truc,
vas-y.
Il y en a plein des généticiens sur la planète.
On oui,
en a
entendu d'autres. Ils sont médecins ?
Oui, bien sûr, un généticien, il est médecin.
C'est automatique.
Sûr, c'est
hein,
des okay. médecins. On en a entendu d'autres dire... Bah, tu peux avoir des généticiens qui font de la recherche, recherche fondamentale en
oui,
génétique.
Oui, ils sont PhD.
Mais c'est
pas
correct,
nécessairement
ils sont généticiens,
oui, oui.
Ils peuvent être exceptionnellement bons en génétique.
Oui.
Et puis leur avis est très important. Mm-hmm. Puis il y a des médecins généticiens, et ils peuvent aussi être exceptionnellement bons en génétique. Et leur avis est important aussi. L'avis de tout le monde est important. Donc prends tous les généticiens, avant même d'entendre son extrait, parce que je la connais, je sais ce qu'elle dit.
Oui.
Prends tous les généticiens. Combien d'autres généticiens ont dit la même chose qu'elle ?
Alors, non, c'est, je suis d'accord
avec toi. Pourquoi on l'écoute, elle ? Vas-y, mets l'extrait, on va
pourquoi on l'écoute après. Pour corriger les faits et puis pour adresser certains points. Je vais y revenir,
vas-y.
Mais alors, premier extrait, écoute, on écoute ça.
Vous parliez du système immunitaire et c'est un point absolument central, à mon avis, de toute cette crise, pas crise, Covid. Qu'est-ce qui est important ? C'est quoi être en bonne santé ? C'est que nous avons, quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à peu près tout virus, tout bactérie pathogène. Et nous avons le système de défense qui nous a été donné pour le combattre.
Alors j'arrête déjà là, ce clip-là. Je ne suis pas généticien, je ne suis pas microbiologiste, mais j'ai vu plein de gens mourir de maladies infectieuses. Alors, cette idée qu'une immunité naturelle est préférable ou est suffisante par rapport à une vaccination. Est-ce que tu peux...
Non, mais avant même de parler de la vaccination, le rôle du système immunitaire, certes, c'est de nous défendre contre les infections. Alors oui, c'est naturel. Mais on est d'accord que la courbe de survie de l'humanité n'a décollé que depuis l'introduction de l'antibiothérapie. Avant, l'espérance de vie était dramatique.
Alors voilà, okay ouais, c'est
donc,
clair.
Le système immunitaire, on le sait, nous, en immunologie, il n'est pas parfait. Et s'il était plus fort, eh ben, on aurait plein de maladies auto-immunes. On n'est pas un animal parfait sur le plan immunitaire. Mais tout ce qu'elle dit est vrai. On a des immunités naturelles pour se défendre contre la majorité des virus, des bactéries. Les bactéries, il y a des antibiotiques. Les virus, il n'y a pas d'antibiotiques. Ça ne marche pas.
Donc, oui. Mais il y a la vaccination.
Mais, et puis d'ailleurs, ce Covid, ça ne tue pas tout le monde.
Oui, non, okay, loin de là.
C'est 1%, on va dire,
oui,
en gros.
Oui.
Ça veut dire que dans 99% des cas, on est capable de gérer.
Oui.
Donc fondamentalement, elle a raison. Mais ce n'est pas ça le point. C'est 1% de plein de gens, ça fait plein de malades.
Absolument.
Et oui, c'est dramatique.
C'est la contagion qui
et
fait
puis,
que c'est dramatique.
Quand on dit 1%, le jour où ça tombe dessus, c'est 100%.
Oui.
Et ça fait des tonnes et des tonnes de patients.
Il n'y a aucun doute.
Okay.
Il n'y a aucun doute. Mais donc, à l'idée, parce que si on extrapole et qu'on va dans la pédiatrie, à l'idée, par exemple, où on pourrait dire, bien les enfants, le taux de mortalité est très faible, est-ce une bonne idée, peut-être, de les exposer volontairement, comme on faisait peut-être avec
alors, attention,
avec
quand on expose volontairement, tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la balle de tennis en entier.
Oui,
t'as le vrai virus.
Absolument.
Alors qu'on peut les exposer volontairement à un vaccin, juste un morceau de l'ARN messager.
Avec une immunité, en fin de compte, qui est aussi bonne,
oui,
post-vaccination,
mieux, alors,
ou meilleure,
meilleur,
ou moins bonne.
C'est marrant, personne ne pose la question, mais comment ça se fait que le vaccin, ça donne une immunité meilleure ? Élie, si t'es logique, la balle de tennis, ça comprend tout, dont ton ARN.
Alors voilà, oui,
si tu vaccines que avec l'ARN, comment ça se fait que ça va être meilleur ?
Est-ce que c'est meilleur ?
Oui.
C'est démontré ?
Oui. Et pourquoi c'est meilleur ? Parce qu'il y a des petits génies. Bah pour eux, c'est eux qui devraient avoir le prix Nobel. C'est ceux qui ont étudié la structure protéique de la protéine spike. La protéine spike qui est autour de la balle de tennis, d'accord ? T'imagines ta balle avec les petits points, les petits picots là. En fait, ils ont deux articulations, les picots. Et ils ne se tiennent pas droit.
Ouais.
Ils bougent, ils flottent. OK ? Sérieux.
Ouais,
ils sont
ouais,
en permanence en train de bouger. Le système immunitaire, pour faire des anticorps contre ce truc-là, il a du mal. Parce qu'il n'a pas une protéine fixe. C'est l'hypothèse. C'est aussi bête que ça. Il y a des mecs qui ont dit, on va prendre l'ARN messager du virus, mais on va lui modifier une ou deux bases de façon à mettre des prolines. Et ça va faire que la protéine spike, quand elle va être fabriquée par nos cellules musculaires, par nous-mêmes, pour nous protéger contre le vaccin, eh ben, ça va être une protéine spike rigide et non pas flexible. Et ça, le système immunitaire, il va avoir une meilleure réponse. Et l'induction, moi, c'est ce que j'ai lu comme explication. Je la trouve fascinante. Et tous les vaccins qui ont utilisé de l'ARN pour mettre... Parce que dans AstraZeneca, il est aussi modifié, le virus, pour contenir de l'ARN messager du Covid, OK ?
Oui.
Hein, puisque c'est un autre virus dans lequel on a
mis
l'ARN messager.
Oui, absolument. C'est un adénovirus, voilà, c'est un... Okay. Le chimpanzé. Ouais.
C'est ça. Donc, on a mis l'ARN pour que ça code pour ça. Ben, oui. L'ARN qu'on a mis, il a aussi cette modification de deux prolines de façon à ce que la protéine spike soit plus immunogène.
Immunogène.
Parce que dans sa façon dont elle va se conformer, c'est ce qu'on appelle la conformation des protéines, eh ben, elle va être plus immunogène, c'est-à-dire qu'elle va stimuler plus le système immunitaire.
Je comprends. C'est comme si on avait trouvé un adjuvant naturel.
Mais je trouve ça génial.
Un adjuvant sans produit.
C'est
sans...
pas beau la biologie, sérieux?
Ouais, c'est beau quand on est au courant de ça. Mais
c'est des notions que...
C'est
tu te rends
nouveau
compte le nombre
moi.
De niveaux d'études qu'il faut pour que les mecs ils te changent la proline? Moi, je trouve
alors,
ça fou.
Alors, comment expliquer
ça y est,
que
tu m'as excité, là.
Et comment ils sont arrivés à ce génie en si peu de temps?
Mais non, c'est pas si peu de temps. On n'a pas découvert le virus, l'ARN, les protéines, les conformations protéiques. On arrive en 2021 où on est capable maintenant d'aller modifier un gène avec des ciseaux qui coupent, de les réparer.
Oui.
Donc tout ça, c'est la recherche fondamentale.
Oui.
C'est pour ça que la recherche fondamentale est aussi importante. C'est pas nous en clinique qui avons sauvé l'humanité avec le vaccin.
Donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de préserver l'ARN.
C'est la connaissance globale de tout ça qui fait qu'il y a des gens qui travaillaient sur l'ARN. Il y a des gens qui avaient vu depuis quelques dizaines d'années que ça serait bien d'avoir des vaccins ARN parce que c'est ce qui ça serait le plus simple, ça serait le mieux, ça serait le plus efficace pour vacciner contre des maladies infectieuses, pour vacciner contre le cancer en mettant de l'ARN qui a été modifié pour simuler un cancer. Bref, il y a des gens qui bossent là-dessus parce que c'est le plus truc le plus safe, le plus petit qui soit. Ils n'y arrivaient pas. Donc, il y a des gens qui bossent là-dessus. Il y en a d'autres qui sont des génies de la protéine qui disent « Ah, regarde, la protéine spike, la façon dont elle est foutue, en termes de conformation, elle se plie, elle bouge. Ça, c'est pas bon pour le système immunitaire. Il faudrait la fixer. » ça prend tout un village, mais ça prend des années, des décennies de recherche fondamentale. Et c'est pour ça que le génie de l'humanité, il est beau. Et c'est pour ça que là, qu'on arrive à ce vaccin, mais c'est incroyable.
Ouais,
en un an et demi, on a eu ce vaccin, mais c'est magique.
C'est miraculeux. Ouais, ouais.
C'est miraculeux.
Ça
et tu sais quoi, mieux que ça,
s'il
mute, le virus.
On peut changer le vaccin très vite.
Tchac.
Oui. On n'a pas eu besoin de le faire.
On a tout le cargo, là. On a le truc, là.
Exact.
En 3 semaines, ils ont sorti le vaccin.
Exact.
OK ? Puis alors, quand ils ont sorti le vaccin, ils ont dû le tester. Normal. Normal.
Est-ce qu'on aurait besoin de
le
tester?
On l'a testé contre placebo. Normal.
Penses-tu qu'on aurait
besoin
de le tester?
On l'a testé contre plusieurs dizaines de milliers de patients. OK ? Normal. Dizaines de milliers de placebo. Regarde les articles où il y a vaccin contre placebo. C'est fascinant. Regardez les effets secondaires. Regardez-les dans le groupe placebo. Il y en a plein dans le groupe placebo,
ah oui,
des effets secondaires.
Sûr, oui.
Alors quoi, les gens, ils sont idiots, ils mentent. Alors, il y a de tout. Il y a des gens où ils pensent qu'il a reçu quelque chose, donc il y a un effet psychologique.
Bien sûr.
OK, fine. Oui. Mais il y a aussi des gens qui tombent malades, indépendamment du fait qu'ils étaient vaccinés par un placebo ou pas. Parce que dans la vie, il y a des gens qui tombent malades tous les jours.
Absolument.
Et le groupe placebo nous sert à montrer que si le nombre de malades, il y a un lien ou pas. Alors, il y a une seule complication de l'ARN messager pour l'instant, c'est la myocardie.
Absolument.
On ne sait toujours pas pourquoi il y a une myocardite. Moi, j'ai une hypothèse, et je ne suis pas la seule à l'avoir, c'est que le système immunitaire, en réagissant contre ça, chez une très petite partie des patients, il va bêtement reconnaître un endroit du myocarde comme lui faisant croire que c'est la Covid. C'est ce qu'on appelle antigen mimicry, en anglais. Je pense que c'est une hypothèse plausible. Okay ? L'autre hypothèse, c'est que des gens aient une anomalie génétique qui fait que, contre ce vaccin-là, ils vont faire une maladie auto-immune à cause d'un gène défectueux ou d'un gène trop activé. Okay ? Mais quand on réfléchit bien, si ces gens-là font une myocardite parce qu'ils rencontrent juste cet ARN-là, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils vont rencontrer la balle de tennis en entier, le virus en entier ?
Et ça, c'est démontré.
Mais
c'est...
oui, les gens qui
on
ont la Covid, ils font
des
myocardites.
Au moins 20-30 fois plus de myocardite.
C'est 32 fois plus de myocardite post-virus que post-vaccin.
Absolument.
Et si on revient au début, tu n'as pas le choix. Tu vas attraper soit l'un, soit l'autre.
Exact.
Alors les gens, ils ont beaucoup de mal avec les calculs de probabilité. Si je te dis, regarde, Eric, je te donne un sac où il y a 10 000 boules blanches et une boule noire, et un autre sac où il y a 1 million de boules blanches et une boule noire. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas sortir de la pièce, il faut que tu choisisses dans un sac. Tu ne vas pas voir les boules quand tu vas choisir. Mais je te dis, il y en a un où il y a une noire sur 10 000 et une autre, une noire sur 1 million. Si tu choisis la noire, tu es mort. Ah, tu n'as pas le choix. Alors, le truc que voudrait tout le monde, c'est laisse-moi tranquille, je veux me casser de la pièce, je veux rien choisir du tout, je veux pas être malade. Non, ça c'est la pensée magique. Tu vas soit attraper le virus, soit le vaccin. Ok ? Attends, tu choisis laquelle ? Ok, alors on va faire ça, tous les gens. Puis il y a des gens qui vont choisir celle où il y a 1 million, pardon, tu vas choisir. Là où il y a une
boule noire. Oui, celle où il y a 1 million.
Million,
okay. Oui, pour au moins
il y a des plein de gens ça, qui font ça, 1 million, 2 millions qui choisissent, puis il y en a qui vont sortir avec la boule noire. Je vais dire, ouais, mais t'as vu, c'est le fait que tu les as fait choisir dans ce sac, ils ont choisi la boule noire, t'as bien vu qu'il y a un effet secondaire. Oui, il y a des effets secondaires, on ne le nie pas. Mais il faut savoir calculer les probabilités. Et les gens, quand on est dans des chiffres aussi ridicules que 1 sur 10 000 ou 1 sur million, on ne se sent pas concerné. Quand on te dit qu'il y a un enfant sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers qui va être malade, ben c'est trop petit comme nombre, on ne se sent pas concerné. Jusqu'à ce que ça te tombe sur la gueule. Et là, les gens qui sont malades, nous, on les voit à l'hôpital. Ça leur tombe dessus, ça leur tombe dessus. Donc, on fait des calculs de probabilité, et c'est normal.
Et la probabilité, les calculs ont été faits en pédiatrie, et il n'y a présentement, dans la communauté scientifique et immunologique, vous n'avez aucun doute que le virus est plus dangereux que quelques vaccins.
Oui, parce qu'en termes de probabilité, bien qu'on est très serein par rapport à l'infection en pédiatrie, eh bien, on est aussi très serein par rapport à la vaccination. Et on pense qu'il vaut mieux attraper le vaccin plutôt que ce virus parce qu'il y a des enfants, même s'ils sont rares, qui ont des complications. Mais 1 sur 10 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus que 1 sur 1 million. Donc, on veut vacciner les enfants pour ces raisons. Mais allons plus loin.
Et à long terme.
Allons plus loin. Il y a eu un comité de la FDA, 17 personnes qui ont analysé ça. Les mecs, ils se savent regarder, épier. Ils savent que leurs décisions peuvent pouvoir leur coûter leur carrière. Il y a des immunologues, des infectiologues, ils ont pris des bons. Ils ont évité de prendre des ânes, ok ? Ils ont pris des bons. Les mecs, ils ont des gros CV, ils ont l'habitude de gérer ce genre de comité. Ils ont l'habitude d'aller dans des endroits où il faut être décisionnel. Ils examinent les données. Et ils disent, 16 d'entre eux votent pour « il faut vacciner les enfants » et un s'abstient, il n'est pas contre, il s'abstient. C'est-à-dire qu'il avait encore un doute. On retrouve toujours la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas encore convaincu. Fine, mais une fois que tu sais ça, dès que je sais ça, moi, je me dis « bon, bah, ok, la probabilité que 16 se trompent et que 1 avait peut-être raison, elle est faible et je ne fais que des calculs de probabilité ». Je ne suis pas dans le virus, moi, je ne suis pas dans le corps. Je ne sais pas, moi, comment ça va marcher pour mes enfants, pour mes neveux, mes nièces, mes cousins. Je ne sais pas.
C'est sûr.
Je ne sais pas. Donc, je réfléchis en termes de probabilité. On ne peut faire que ça. Mais mieux, on a maintenant, je ne sais pas combien de milliards de patients qui ont été vaccinés.
Exact. Alors,
et en plus, on va donner un tiers avec les enfants, un tiers de la dose.
Alors, si on pousse plus loin, parce que là, tu calcules les probabilités de ce qu'on connaît dans la première année de suivi. Si on regarde maintenant le long terme, moi...
Attends, avant le long terme, nous, on a vu des enfants sévèrement malades avec des syndromes Kawasaki-like, qu'on d'accord, appelle soit PIMS, soit MIS-C. Exact. On les a vus aller aux soins intensifs, on les a vus cracher. On n'en a pas vu mourir, Dieu merci, tant mieux.
C'est incroyable.
Est-ce une raison pour ne pas vacciner ? Est-ce une raison pour accepter ce genre de pathologie ? C'est pas si rare que ça. Nous, on les voit à Sainte-Justine. On a eu entre 80 et 100 cas.
C'est quand même beaucoup.
C'est quand même pas mal.
C'est beaucoup pour un hôpital dans Montréal. Oui, absolument.
Il
y avait des hôpitaux pédiatriques qui étaient remplis.
Si on peut éviter ça.
Oui.
Attends, je comprends pas. Le cancer de l'enfant, c'est un problème sérieux ? Tu vas me dire de quoi tu parles, Élie ? Le cancer de l'enfant, c'est un problème sérieux ?
Bien sûr.
Très sérieux.
Très.
C'est normal qu'on fasse de la recherche et qu'on traite.
Alors ?
Je dirais que tu me traiterais d'assassin si je te disais, attends, on s'en fout du cancer de l'enfant, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y en a plus. Il y a plus de Covid grave que de cancer de l'enfant.
Il y a alors plus de Covid grave que de cancer d'enfant ?
90 ou 100 dans une année. Alors quoi ?
Alors quoi ?
Ça veut dire que le cancer d'enfant devrait s'en foutre. Pourquoi on s'en foutrait de la Covid pédiatrique et pas du cancer d'enfant ? C'est évident qu'il faut s'en occuper de ces maladies. Ce n'est pas parce qu'elles sont rares qu'il ne faut pas s'en occuper. On ne peut que se réjouir qu'elles soient rares.
Surtout qu'elles sont rares, mais qu'on a un traitement efficace.
On a un traitement prophylactique. C'est-à-dire qu'on est capable de les éviter de façon très efficace.
Oui.
Et heureusement, on a aussi des traitements. Quand ça arrive, on va donner des traitements qui diminuent la réaction du système immunitaire.
Oui.
Et comme je t'ai dit, dans notre hôpital, il n'y a pas eu de mort, tant mieux, et au Canada non plus.
Ouais, c'est assez remarquable.
Mais c'est des cas sérieux. Et comme tu le disais, on n'est pas...
Est-ce que ces enfants-là, est-ce que vous avez remarqué un pattern de... Disons, si on parle de la COVID sévère, et en deuxième temps du PIMS, la COVID sévère, est-ce que ce sont des enfants qui ont un profil de facteur de risque qu'on peut prédire comme chez l'adulte, l'obésité ou
il y a quelques cas d'obésité, de diabète, il y a pas mal de patients qui sont
maladies inflammatoires, immunothérapie,
en chimiothérapie, en grève de moelle osseuse, certains déficits immunitaires, bien que rares. On parle de la COVID forme
sévère.
Adulte grave,
oui.
qui touche les enfants,
exact.
C'est surtout ça. C'est vraiment exceptionnel.
Un enfant en pleine santé, voilà. D'accord. Et pour le PIMS,
c'est complètement différent. Ce n'est pas au moment de la COVID que l'enfant est malade, c'est 3-4 semaines après.
Exact.
Donc 3-4 semaines après, tu m'as dit de me mettre face au micro, c'est ça ?
Oui.
Mais mieux. 3-4 semaines après, il faut que vous imaginiez, j'ai le micro dans le visage, là, c'est horrible. Mais bon, les gens s'en foutent, c'est pas grave. Donc 3-4 semaines après l'infection, le système immunitaire se met à réagir de façon disproportionnée et à créer une inflammation systémique. C'est comme s'il y avait un dérèglement du système immunitaire provoqué par l'infection virale.
Est-ce que je peux me permettre une question ? Mm-hmm. Je sais que je t'interromps, mais on voit la maladie de Kawasaki, qui est à peu près, disons, le même déclenchement tardif. Pourquoi est-ce qu'un virus déclenche tardivement un système immunitaire et va donner une forme de maladie et un autre, une forme qui n'est pas la même ?
Un autre patient, tu veux dire, ou un autre
C'est-à-dire
virus ?
C'est-à-dire un autre virus. Comment ça se fait que...
C'est la beauté de l'immunologie.
Quand on parle, est-ce que c'est vraiment encore la COVID initiale, 3 semaines plus tard, qui donne une forme à cette maladie ou...
Alors oui, c'est la COVID initiale, c'est-à-dire que si tu n'avais pas rencontré la COVID, tu ne ferais pas ça.
Oui.
Il y a d'autres virus où tu peux faire ça. Ça survient sur des terrains particuliers. On est en train de traquer les causes potentiellement génétiques à ça.
Mais ce n'est pas exactement la même chose que la Kawasaki. Vous avez défini que c'est une maladie différente.
Ça ressemble, mais il y a des éléments qui sont quand même assez différents. Et les mécanismes immunologiques sont peut-être un petit peu différents. Ça me fascine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens ils mélangent immunité innée, immunité adaptative, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi les enfants, ils font moins d'infections ? Tu sais, les enfants, on s'attendait à ce que ce soit grave, ça n'est pas grave. On sait pas encore si on a compris, mais il y a eu un article qui était très intéressant qui montrait que, en fait, le virus, il commence par rentrer dans le nez. Donc les gens, ces chercheurs ont étudié les cellules épithéliales du nez. Et ils ont montré que les cellules épithéliales du nez d'un enfant réagissaient beaucoup plus vite au virus que les cellules épithéliales du nez d'un adulte. Le virus y rentre pareil, il y a autant de récepteurs, mais une fois qu'il est dans la cellule, il va déclencher dans la cellule un message. Tu sais, j'avais dit tout à l'heure, on appelle le système immunitaire à la rescousse. Comment on fait ? C'est ça l'immunité innée. Alors que je n'ai jamais vu ce virus, je suis quand même capable de me défendre. C'est ce qu'elle décrivait Henriette, c'est ça qu'elle appelle son prénom.
Oui.
Effectivement, on a des mécanismes qui font qu'alors qu'on n'a jamais vu un virus, on est capable de reconnaître soit de l'ARN étranger, soit des motifs de paroi sur les bactéries qui nous disent « ça, c'est pas à nous, c'est étranger, faut se défendre ». Et la première ligne de défense, c'est de fabriquer ce qu'on appelle de l'interféron, interféron de type 1. Et la réponse de l'enfant à cet interféron de type 1, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus « boum ». Et ça fait que le système immunitaire, il vient à la rescousse beaucoup plus vite et il a beaucoup plus de chances d'empêcher la production vers les poumons. Et c'est ce timing-là, on pense, qui fait que les enfants font des formes moins graves, tant mieux.
C'est bizarre parce que j'aurais pensé que comme on a été exposé comme adulte à des coronavirus de toutes sortes auparavant...
Les enfants aussi, c'est vrai. Très tôt. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, donc l'immunité n'a pas eu le temps de wane, comme on dit en anglais, de s'évanouir.
J'ai compris.
Alors que chez l'adulte, ça fait peut-être plus longtemps que
l'on a
eu. Ça a été une hypothèse, d'ailleurs, à un moment. Et il y a cette immunité croisée. Il y a clairement une partie d'immunité croisée qui joue, ce qui fait que les enfants peuvent réagir encore plus vite quand il y a l'interféron qui leur dit « Coucou, viens m'aider, il y a une saloperie, là, il y a un ARN qui est rentré, et puis il y a le système immunitaire qui arrive, et par chance, il arrive à peu près reconnaître un coronavirus parce qu'il en a déjà vu, et il s'en sort. »
On fera peut-être moins de rhume à coronavirus, alors ?
Peut-être, après cette pandémie.
Alors, je ne te dis pas à quel point les gens me...
Attends, tu m'as fait écouter Henriette, pour l'instant, j'étais d'accord avec ce qu'elle
disait. Ouais, non, alors Henriette, elle a dit beaucoup de choses. Je vais te faire écouter une deuxième chose, Henriette. C'est particulier, j'ai écouté son dialogue et ça m'arrive à une question importante. Alors là, elle parle un petit peu de son hypothèse, pourquoi en Italie, ça a été particulièrement difficile, le taux de mortalité initial, au lieu de dire qu'il y a eu simplement une grande vague de travailleurs chinois qui sont venus avec le virus et qu'il n'y avait aucun traitement, et on connaissait à peine le virus, c'est sûr qu'il y a eu... Une grande mortalité. Elle est allée dire que c'est une année particulièrement où on a utilisé beaucoup le vaccin de la grippe et de la méningite dans la même période. Et elle prétend, et je vais te faire écouter ce qu'elle dit, elle prétend que peut-être de donner trop de vaccins et qu'un virus arrive, que ça peut aggraver le pronostic.
Et cette année, alors là, il y en avait plein les médias, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils avaient eu 185 000 doses, ils avaient vraiment vacciné à un très haut niveau.
Elle parle de la grippe.
La population des plus de 65 ans en Italie. Ça, c'était en fin octobre. Vous pouvez trouver tout cela.
2019.
2019. Et puis, en janvier 2020, là, on leur dit, oh là là, il y a des cas de méningite qui arrivent. Donc, bam, à nouveau, vous vous faites vacciner contre la méningite. Et là, finalement, simultanément, puisque d'après le docteur, alors je ne me souviens plus de son nom, le docteur Remuzzi, qui est co-auteur quand même d'un récent article dans Lancet, lui dit que le virus était déjà...
On pourrait parler
déjà...
d'Ancet aussi, du coup, maintenant.
Le virus sévissait déjà depuis octobre 2019, vu les spécificités de la pneumonie qu'il a pu analyser. Eh bien, donc vous voyez un petit peu cette population âgée qui se retrouve dans un contexte idéal d'interférence virale.
Interférence virale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
N'importe quoi.
N'importe quoi.
Ça veut dire n'importe quoi. Tu crois que le système immunitaire, il est mort de rire quand il entend ça, sérieux. Il est en permanence stimulé par des virus, en permanence. Et nous, on va dire que, on va imaginer l'hypothèse que, comme elle dit, que ouais, c'est parce qu'il a été trop stimulé. Donc c'est n'importe quoi. Mais vous devriez voir ma tête, les bras m'en tombent. C'est n'importe quoi. Je vous le redis là. Non mais sérieux, il y a un moment donné, il faut le dire, je suis immunologue.
Tu comprends pourquoi je te pose la question.
Je suis immunologue, c'est mon métier.
Voilà.
C'est n'importe quoi. Mais c'est une question légitime pour des gens qui ne connaissent pas la science et la médecine. Les parents qui me demandent, je suis immunologue, donc je préconise des vaccins chez des patients qui ont des déficits immunitaires, des patients qui sont fragiles, ils me disent, mais est-ce que vous croyez qu'il a rencontré trop de choses? Non, on ne stimule jamais trop un système immunitaire dans le sens avec des choses différentes.
Excellent. Donc, présentement, de donner le vaccin de la grippe pendant qu'on donne le vaccin de la Covid, il n'y a pas de problème.
Non.
C'est pour ça que je voulais soulever ce point.
Il y a zéro problème. N'importe. Je ne sais pas dire autrement. On va dire que je suis méchant, agressif, méprisant, whatever. N'importe quoi.
Il y a deux autres choses que je veux te faire écouter d'elle. Vas-y. Je m'excuse.
T'es sûr, t'es obligé.
D'insulter ton intelligence.
Non, c'est pas une question d'intelligence, c'est n'importe quoi.
Et là, vacciner quelqu'un qui a eu le Covid sans le savoir, c'est à nouveau le mettre en danger. Parce que pour les mêmes raisons d'interférence virale, notamment.
La preuve, on l'a fait.
Par exemple, je sais pas si vous avez.
Alors, on l'a fait.
La tuberculose.
J'ai les rapports avec la tuberculose.
Là, je sais pas. Parce qu'elle dit que
pourquoi
quand tu as eu la.
Pourquoi tu me fais ça?
Mais écoute. Écoute, j'ai,
pourquoi tu me fais
j'ai rencontré aujourd'hui une patiente qui a eu une Covid sévère et longue. Mm-hmm. Elle a eu une dose de vaccin initial post-Covid. Elle dit que ses symptômes ont empiré. Dans mes lectures, parfois la Covid longue peut s'améliorer avec une vaccination complète. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais elle est convaincue que la vaccination après la Covid a détériorer sa condition. Est-ce que immunologiquement, il y a une base possible à ça?
C'est possible. On peut imaginer un mécanisme où, justement, comme je te disais tout à l'heure, imaginons que c'était AstraZeneca ou ARN?
ARN.
Ok, très intéressant. Imaginons que cette patiente fasse partie des gens qui, quand ils rencontrent la protéine Spike, leur système immunitaire va réagir. Et ça va faire des troubles parce qu'il va croire reconnaître en lui quelque chose qui ressemble à la protéine Spike. Donc, il va s'auto-attaquer. Pas de bol. Ça, c'est déjà décrit avec plein de virus, des bactéries, avec le streptocoque. C'est classique, c'est la glomérulonéphrite post-streptocoxique. On fait des anticorps contre le streptocoque. Et manque de bol, dans le rein, on a le même genre d'antigène, on va dire. Ça ressemble beaucoup. Puis du coup, le système immunitaire, il croit avoir du streptocoque dans le rein. Et boum, 4 semaines après, il attaque le rein. Donc, ça existe, ce genre-là. Donc, les virus déclenchent des réactions immunitaires et cette réaction immunitaire peut se retourner contre nous. Ça, c'est très connu. C'est toutes les maladies immunes post-virales. Il y en a des tonnes, des encéphalites, des néphrites, des name it. OK ? Donc, pas de chance. Cette patiente a la Covid, qui a le virus qui se prolifère. Il faut se battre contre ça. Donc, elle fait une Covid grave. Et en plus, le système immunitaire, il se rappelle qu'il a vu Spike. OK ? Et il y a quand il va revoir Spike, alors qu'il est encore bien stimulé 4 mois après, moins de 4 mois après, boum, il fait une réaction qui peut être dramatique. C'est décrit, c'est un mécanisme décrit. Ça aurait pu être un problème, mais on sait maintenant, quand on vaccine des gens qui ont déjà eu la Covid, et tu te rappelles pourquoi on vaccine des gens qui ont déjà eu la Covid ? Parce que la maladie elle-même ne protège pas, et puis la maladie elle-même ne protège pas des variants, exact. Et la maladie elle-même protège moins bien que le vaccin.
Que le vaccin.
La séquence idéale, en fait, celle qui protège le mieux un individu, c'est la balle de tennis au premier coup, donc tu as tout le virus au premier coup, tu ne meurs pas, sinon c'est idiot. Et le deuxième coup, tu fais juste une injection de rappel avec l'ARN messager. Ça, là, Là, tu es protégé comme il faut. Là, tu es bien.
Je suis d'accord avec toi, mais tu réalises que les gens n'ont pas leur passeport avec ça, ici.
Je sais, mais ce n'est pas grave, parce que si... si alors, OK.
Ils l'ont ailleurs, je pense.
Oui, mais peu importe le passeport. Le passeport, c'est un truc pour passer. Okay, oui. Moi, je te parle biologie.
Biologie,
mets-toi à la place des mets-toi à la place des politiques qui décident du passeport pour passer. Il faut des messages simples. Si tu ne mets pas des messages simples, ça ne marche pas. Il faut des règles simples. Donc, tu as eu une première fois la grosse balle de tennis. Ouais. Okay. La deuxième fois, tu viens avec un petit contenant de la balle de tennis, l'ARN qui est du spike dans le vaccin Pfizer. Ça se passe bien, comme dans 99,999% des cas. Okay. Il y a des fois où ça se passe mal, mais ça se passe bien. Vu que ça s'est bien passé la deuxième fois, c'est que ton système immunitaire, il n'en a rien à foutre de ce spike. Vas-y, tu peux lui en réinjecter 2 fois, 3 fois, 10 fois. On s'en fout. Où est le problème? Moi, vas-y, envoie-moi 12 rappels. Je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai déjà eu 2. Et mon système immunitaire, après 2 fois, il a dit « Fine, tout va bien, je l'ai vu celui-là, j'ai compris, I got it. » Et puis tu sais quoi? J'ai déjà réagi, puis je vais re-réagir, puis je vais re-réagir, et je vais re-réagir et j'espère que je vais continuer à réagir et j'espère que je serai toujours protégé quand on va me revacciner. Parce que la deuxième fois, ce qui est très important dans un système immunitaire, c'est que la première fois qu'on rencontre un virus, on fait une réponse grossière. Le système immunitaire, il va vite et il fait des anticorps dont l'affinité, donc la capacité à reconnaître, elle est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. La deuxième fois qu'on le voit, le système immunitaire, il a une façon, il fait des mutations dans ses anticorps, dans les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps, ce qu'on appelle les mutations hypersomatiques. C'est compliqué, désolé, mais c'est comme ça. Et donc, les cellules qui fabriquent les anticorps, elles disent lui, là, le vilain, là, il revient. Tu vas voir, je vais lui faire des anticorps de malade. Et il mute de façon à faire des anticorps avec une affinité exceptionnelle. Donc c'est toujours bien de faire ces rappels parce que c'est quand on a cette deuxième dose qu'on est le mieux protégé. C'est pour ça que les gens qui ont eu une fois la Covid, ils ont une protection, mais elle ne va pas durer longtemps et elle n'est pas championne du monde. Donc c'est important de les vacciner au moins une fois derrière. Alors après, pour le pass, pour que ce soit simple pour tout le monde, et puis parce qu'on ne peut jamais prouver,
exact.
On a dit, allez, deux doses à tout le monde. Mais oui, bien sûr, c'est tellement simple. Il y a des gens qui auront une dose pour rien. So what? Si ça se trouve, ce n'est pas pour rien. Ça se trouve, c'est un peu mieux. Who cares? Sérieusement. Et d'ailleurs, regarde les résultats. Pour l'instant, toutes les décisions de nos comités d'immunisation du Québec, franchement, waouh.
Oui, absolument. Absolument.
Sérieux,
écarter les doses.
Et tu sais, je suis dans certains de ces comités, pas le comité d'immunisation, je suis un des comités de traitement. Quand je vois l'intensité des réflexions, la profondeur des discussions, le respect des temps de parole, le fait qu'on débatte jusqu'à plus soif, on tient notre point, on dit et on écoute l'autre et on n'a pas d'agenda, on s'en fout, il n'est pas question d'avoir raison ou tort. Si quelqu'un, par un bon point, nous prouve qu'on a probablement tort, on l'admet. C'est des discussions exceptionnelles, géniales. C'est un vrai plaisir.
Tu vois, ça
prend beaucoup de temps,
pense que
mais c'est un vrai bonheur. Si on pouvait enregistrer,
important de comprendre
si on
ça.
Pouvait enregistrer et cacher les noms pour que les gens ne se sentent pas prévisés, parce que c'est important d'être anonyme sur certaines décisions. Si on pouvait filmer la façon dont ça se passe dans tous ces comités, les gens seraient tellement rassurés. Tellement rassuré.
Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on a ressenti
qu'est-ce
dans la
qu'on
population
réfléchit, mais qu'est-ce
on
qu'on
s'est
réfléchit
dit, ils ont espacé les doses parce qu'on manque de vaccins, point
ben
final.
Oui, ben oui.
C'est ce qu'on a perçu.
Mais c'était un... mais
on
c'est
n'a
pas, c'est pas juste une perception.
Une réflexion.
Mais il y a une réflexion derrière. Mais d'ailleurs, la réflexion, elle commence avec le vaccin Pfizer. Les mecs, ils savent faire des vaccins. Les mecs qui s'occupent de Pfizer et de Moderna et tout, ils savent faire des vaccins. Ils savent très bien que 4 semaines, c'est trop vite.
Alors,
qu'il vaut mieux, dans l'histoire de la vaccination, dans la biologie de la vaccination, vaut mieux laisser le temps à la réponse de descendre et boum, tu fais un rappel quand tu as oublié. Comme quand tu apprends un devoir.
Alors,
apprends, oublie, puis remets une deuxième couche quand tu as oublié. Là, tu vas t'en souvenir. Ben,
on a juste voulu gagner du temps.
Il y avait une pandémie, puis il y avait la planète qui allait mal.
On a voulu gagner du temps.
Donc, ils ont fait le plus petit délai possible. Mm-hmm. Okay mm-hmm. Et donc, quand on arrive là, ils viennent avec un schéma 3 ou 4 semaines. Et c'est super parce qu'en 4 semaines, tu as protégé les gens. Si on avait eu d'emblée 4 milliards de doses, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Parce qu'il fallait s'en sortir là. Puis après, il y a eu le variant Delta. Alors que nous, à ce moment-là, au Québec, on n'a pas assez de doses. Donc, il y a le Québec et l'Angleterre qui ont tenu bon. Et le Canada. Canada et Angleterre qui ont tenu bon, qui ont dit on n'a pas assez de doses, donc on fait le pari qu'il vaut mieux une dose à plus de monde que 2 doses à moins de monde. Parce qu'on va protéger plus de monde. La première dose n'est pas parfaite, mais au moins elle va protéger, elle va empêcher des gens de mourir. C'est le pari qu'on a fait. Ben, il était logique. Et puis, on savait qu'immunologiquement, il était très probable que de décaler la deuxième dose, à long terme, ça serait mieux. Mais ce n'était pas ça qu'on visait au début. Donc, de dire, je ne vais pas te dire aujourd'hui, on a décidé ça parce qu'on savait 4 semaines, c'était
non,
mieux.
Non, c'est compris, c'est sûr.
Mais on savait que biologiquement, ce n'était pas une hérésie.
Les enfants, pourquoi est-ce qu'on ne leur propose pas ça, d'étaler les doses Je sais pas, là, on est rendu là, on aurait pu.
Pareil, on veut les protéger. On veut
le
faire
plus
vite
possible.
On veut faire vite parce qu'on veut casser le mode de transmission. Tous les plus de 12 ans sont vaccinés. On va faire les 5 à 11 ans. Et les moins de 5 ans, en général, ils peuvent ne pas aller en garderie ou à l'école. Ils sont beaucoup moins exposés. Donc, l'idée, c'est ça. Mais n'oubliez pas, dans l'histoire des maladies infectieuses, les premières victimes, c'est les enfants. Et les gens qui reçoivent le plus de vaccins, c'est les enfants. Donc, oui. Ce n'est pas nouveau de vacciner des enfants.
Alors ça, je pense...
On sait vacciner les enfants.
Voilà,
on sait comment ça marche de vacciner les enfants. On sait ce que ça fait de vacciner les enfants. Et là, il y a eu déjà 4 milliards d'adultes qui ont reçu le vaccin. Donc, le fait qu'il soit safe, ce vaccin, on le sait. Il y a eu plusieurs milliers qui ont été faits dans l'essai Pfizer qui a été publié dans le New England. La FDA a demandé de rajouter plusieurs milliers, d'où les délais. Ils en ont fait environ, je ne sais pas les chiffres exacts. Il faut aller voir le site, le blog de ce fameux collègue, Mathieu Nadeau.
Oui.
J'ai oublié la deuxième partie de son nom, qui m'excuse. J'ai beaucoup de mal avec les noms composés.
Ce jeune homme, ce collègue,
est un génie absolu.
Fantastique.
Il travaille super bien. Il est drôle, il est intelligent. Il est professionnel, c'est mon idole.
Oui, alors Walmart, Justin Trudeau sur TikTok ou
Facebook.
Justin Trudeau sur
absolument,
Facebook.
Absolument
très
génial.
Recherché, très bien.
Mais c'est surtout, c'est professionnel, c'est fait dans les règles de l'art. Il va chercher les informations et ça, tu as vu le temps que ça demande.
Absolument.
On a un métier nous à part ça.
Ah oui, absolument.
On ne peut pas passer ce temps à faire ça.
Je vois l'heure passer. Je sais que tu as attendu. Regarde,
j'ai dit quand je dis on a un métier à part ça, lui aussi. Donc c'est tout
c'est
à son honneur.
Et il est résident. Hein, il est en plein
étude. Plein moment où tu travailles le plus.
Ah oui, je lui lève mon chapeau.
Moi aussi.
On voit des textes venir. Ne prenons pas nos enfants comme cobayes pour protéger les personnes âgées.
Non, protège les enfants. Non.
Voilà.
C'est faux. On n'est pas en train de vacciner les enfants pour protéger la planète. C'est pas vrai. On est en train de vacciner les enfants pour protéger les enfants. Tu vas me dire, mais enfin, Élie, tu travailles à Sainte-Justine, tu sais très bien qu'on n'a pas eu beaucoup de cas graves. On n'a pas eu beaucoup de cas graves, mais on en a eu. Et ceux-là, je veux les éviter. Il nous est donné le pouvoir aujourd'hui de les éviter. Pourquoi on ne les éviterait pas? Et ça, c'est un. Deuxièmement, on veut protéger les enfants de la pandémie. La pandémie fait souffrir les enfants. Ça les empêche d'aller bien à l'école. Ça les empêche d'avoir une vie bien rythmée qu'en avant. C'est le bordel. C'est le bordel dans le monde en ce moment. Et ce bordel, il est mauvais pas pour l'économie. Il est mauvais aussi pour l'économie. Mais il est aussi très mauvais pour les enfants.
Pour le psychologique.
Pour le psychologique. Pour le nombre de problèmes de santé mentale qu'on a chez les adolescents. Donc, pour protéger les enfants, il faut vacciner. Et je vous répète qu'au Canada et au Québec, si on a eu moins de décès en pourcentage qu'aux États-Unis chez les enfants et moins de formes graves, c'est parce qu'on a eu un taux de vaccination exceptionnel. C'est vraiment génial. Au-dessus de 80%. Et ça a protégé les enfants. Donc, et puis, il y a un moment donné où il faut arrêter de donner autant de place aux gens qui sont contre et reconnaître qu'on a vraiment été bon au Québec et au Canada. On a été résilients. Le Collège des médecins a été bon. Le gouvernement a été bien. Il y a des erreurs. Moi, tu sais, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand ils font une erreur, ils reviennent en arrière.
Oui, absolument.
Ça, j'adore ça. Alors, des fois, il y en a qui sont tellement énormes qu'on savait qu'ils allaient revenir. Mais pourquoi ils ont décidé ça? Puis boum, 3 jours après. Mais c'est correct, ils doivent gérer un nombre de décisions absolument colossales. Et pour avoir été dans ces comités, c'est tellement difficile, il y a tellement de choses à prendre en considération.
Je te lance la question, le masque, qu'est-ce que tu en penses?
Au début,
en classe,
c'est une erreur de... Alors déjà, le masque, au début, c'est une erreur de communication dramatique. Mm-hmm. C'est évident qu'une maladie virale, pulmonaire, respiratoire, le masque, il faut le mettre. Mais il n'y avait pas de masque. Donc maintenant, imaginons le scénario, mettons-nous à la place. Moi, c'est ce que j'imagine, parce que personne ne l'a avoué, ça. Je pense que ça va attendre des années avant qu'on l'avoue, mais mon scénario est le suivant. On sait à ce moment-là qu'il faut mettre un masque, mais on sait qu'on n'a pas de masque. Mmh. Si tu dis à la population qu'il faut mettre un masque, tu mens pas, tu es honnête, mais tu n'as pas de masque. Tu déclenches quoi? Tu déclenches une flambée des prix au masque, tu déclenches une guerre du masque.
On voulait aussi les garder pour les professionnels de la santé à l'époque.
Tu déclenches
une pénurie,
tu l'aggraves
pour les personnels.
Et tu déclenches une panique.
Oui.
Ils ont fait le choix stratégique, politique, selon moi, de mentir, quitte après à retomber en faisant un triple salto arrière sur leurs pattes, je ne sais pas comment. Mais c'est un choix de décision politique de haut niveau. Et c'est assez intéressant que dans le monde entier, la décision a été la même, finalement, de dire non, pour l'instant, on n'a pas besoin de masque. Alors que la probabilité, même si on n'avait pas la certitude, mais la probabilité qu'on ait besoin de masques dès le début, elle était quand même assez énorme.
Je vois dans ton discours qu'il n'y a aucune hésitation pour la vaccination pédiatrique.
Non.
J'aimerais te poser peut-être une question qui, moi, personnellement, me travaille. J'ai beaucoup suivi Israël, et on va terminer avec ça. Ils ont été les pionniers dans la vaccination globale, même s'ils n'ont pas atteint un niveau peut-être espéré de vaccination en pourcentage. Ils ont été les pionniers dans le booster, mais ils n'ont toujours pas obligé, ils n'ont toujours pas considéré encore la vaccination pédiatrique. Et j'ai même cru lire qu'ils se demandent s'ils vont laisser le choix aux parents. Est-ce que...
Je ne comprends pas la question. Ils l'ont considéré ou ils ne vont pas laisser le choix aux parents?
J'essaie de comprendre comment ça se fait qu'ils ont été toujours les premiers à initier, disons, la vaccination, le booster. Mais pour la pédiatrie, c'est les États-Unis avant eux. Et j'essaie de comprendre comment ça se fait que ça n'a pas commencé. Et j'ai cru lire qu'ils sont en train de considérer peut-être laisser le choix aux parents de décider s'ils vaccinent ou non leurs enfants.
On va faire aussi ici pareil, on va laisser le choix. Hein. À aucun moment, on a dit qu'on allait obliger qui que ce soit à se vacciner, on est d'accord.
Mais on va avoir des restrictions quand même. Les enfants ne pourront pas faire telle activité. Je pense, ce qu'on fait aux adolescents, on va le faire aux enfants.
Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cette
décision. Ça, c'est politique.
Je ne sais pas.
Ça, c'est politique.
Mais je n'ai jamais vu qu'on allait obliger quelqu'un de se vacciner. On peut discuter si on aurait dû rendre la vaccination obligatoire, mais on va se recevoir des roches. On ne va pas rentrer là-dedans. Je pense que c'est correct qu'on ne le rende pas obligatoire. Mais surtout quand on a un taux d'adhésion de plus de 80%, ça prouve que les gens, quand on leur explique, ils comprennent. On ne leur explique pas assez. Il faut faire de la biologie, il faut expliquer la biologie. Sérieux, après ce que j'ai expliqué sur la balle de tennis,
absolument.
Tu peux me dire comment tu peux préférer la balle de tennis au petit aérien qui est à l'intérieur?
Absolument. Je vais finir avec... j'ai autour de moi des...
Et puis, il faut travailler sur les traitements aussi. Il n'y a pas que le vaccin dans la vie.
Il faut
vacciner, mais malgré les vaccins, il y aura toujours des gens malades, parce qu'il y a des gens qui vont échapper au vaccin, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies chroniques, il y a des gens qui ont des facteurs de comorbidité.
Absolument.
Des déficits immunitaires, des chimiothérapies, des femmes enceintes. Il faut vacciner les femmes enceintes, c'est tellement important.
Oui, les femmes
enceintes. Il faut vacciner les femmes enceintes.
Je répète,
les femmes enceintes, toutes, vaccinez-vous.
Avant même qu'elles tombent enceintes.
Et si vous êtes enceinte, zéro hésitation, il faut vacciner les femmes enceintes. Il y a eu des cas de transmission au nouveau-né, il y a eu des femmes qui sont mortes. C'est dramatique, il faut vacciner les femmes enceintes.
Oui, mais écoutez-y.
Donc, il n'y a pas que les vaccins, il y a les traitements, il y a des gens qui font de la recherche sur les traitements et c'est important qu'on continue à avoir des financements là-dessus.
Dernière question qu'on m'a demandée, mon enfant a déjà eu la Covid. Je pense que tu as répondu un peu plus tôt. Est-ce que je peux me passer de le vacciner? Il a eu la Covid, il a eu aucun symptôme.
Comment on sait qu'il a eu la Covid?
Il a testé positif, mais
il a été asymptomatique.
Mais disons que est-ce que tu serais à l'aise de dire
de la même façon que pour les adultes avec le variant Delta?
Exact, c'est le variant.
Et puis avec l'immunité naturelle.
Donc
post-infection qui est une seule fois, l'immunité n'est pas parfaite.
Voilà.
La probabilité que cet enfant fasse une mauvaise réaction au vaccin, à ce qui est à l'intérieur de la petite balle de tennis, alors qu'il a déjà vu la balle de tennis en entier, elle est très, 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 très faible. Par contre, la probabilité qu'il se rattrape la balle de tennis, elle est plus forte et qu'il fasse des complications. Donc, en termes de calcul de probabilité, même si c'est rare, on compare du rare avec du rare, mais on compare en fait du rare avec du très rare. Et je préfère aller me protéger parce que je n'ai pas envie que les enfants tombent malades.
Et jusqu'à présent, en tout cas en pédiatrie, dans ces agents, on n'a pas vu beaucoup de myocardite post-Covid, à ma connaissance.
Non, pour l'instant, c'est les adolescents.
C'est vraiment les adolescents, et on pense que c'est lié à la testostérone.
Ouais, je ne suis pas convaincu de cette hypothèse, mais pour l'instant, c'est une hypothèse. Selon moi, c'est plus une hypothèse circonstancielle, c'est-à-dire, ça, c'est bien pour expliquer pourquoi cette tranche d'âge et pourquoi les adolescents, surtout les garçons. Effectivement, c'est là où il y a un pic de testostérone, mais je ne sais pas, je ne suis pas convaincu tant que je n'ai pas l'explication biologique du pourquoi la testostérone.
Super. Bah, écoute, Élie... On a passé une heure agréable
déjà,
ensemble.
On ne peut pas continuer encore une heure. C'est sympa.
On va reprendre.
J'ai encore plein de trucs à dire là-dessus.
T'as quelque chose.
Je suis chaud, ça y est, tu m'as excité. Là.
Écoute, je pense qu'on a couvert beaucoup de terrain.
J'ai pas trop dit de bêtises, j'ai pas été vulgaire, j'ai pas dit de gros mots.
Non. C'était parfait.
Un peu. C'était je me suis comporté parfait. En bon français, j'ai dit quelques gros mots de temps en temps.
Je vais te dire, je vais être honnête avec toi, j'ai une enfant de 11 ans. Mmh. Et elle va faire 12 ans bientôt. Mais j'espère pouvoir lui donner la petite dose d'être obligé de lui donner la plus grande dose.
Selon moi, entre 11 et 12 ans, ça ne change absolument rien. Tu peux donner l'un ou l'autre, c'est pareil.
Je suis d'accord.
Ni en termes de toxicité, ni en termes d'efficacité.
Mais si elle, en termes de toxicité, non.
Pareil.
Tu ne penses pas que la toxicité...
Tu sais combien d'enfants de 12 à 17 ans on a vacciné? Beaucoup.
D'accord.
Et il n'y a pas eu d'effet secondaire.
Donc, tu vois pas la toxicité.
Selon moi, il y a plein d'autres raisons de mal
c'est
dormir.
C'est quelque chose d'immunitaire qui n'a pas nécessairement
non, je pense que, non,
de
la
lien
dose,
avec la dose.
La dose si tu tombes sur le fameux patient qui, lui, va avoir une mauvaise réaction immunitaire,
la dose est pire.
Alors, la dose, c'est important. Le
J'ai
moins
compris.
Tu fais, le mieux c'est.
D'accord.
Donc, c'est logique d'avoir baissé les doses.
Okay,
c'est bien. Puis, on s'adapte au poids de l'individu. C'est complètement normal. Mais Non, je ne me poserai pas la question. Dès que tu peux, le premier que tu peux faire, soit elle a 12 ans et le vaccin il n'est pas encore pour les 5-11 ans, ben bing, tu la vaccines. Soit le vaccin pour les 5-11 ans sort et elle n'a pas encore 12 ans, bing, tu la vaccines. Génial. Si c'est le même jour, eh ben, tu lances une pièce en l'air et tu me diras ce qui est tombé.
Okay. Superbe. Superbe. Merci énormément, Élie, d'avoir répondu à toutes ces questions.
Et encore bravo pour tout ce que tu fais sur Facebook. C'est très important. Je lis tes posts, je lis les commentaires.
Et je te suis sur Twitter également. Ouais, tu es très présent.
Merci. Ça aide les gens. Je pense qu'il est de notre devoir en tant que médecin d'essayer de vulgariser, d'essayer d'expliquer, de respecter les gens qui posent des questions et d'expliquer qu'il y a des scientifiques qui ont le droit de penser le contraire. Mais là aussi, faites des probabilités. Regardez le nombre de gens qui disent la même chose. Regardez ce qu'ils font dans la vie, leur métier, et combien il y en a qui disent la même chose. Et faites confiance. On est là pour s'occuper de tout ça. On a aussi nos familles. On engage nos responsabilités quand on parle. On, même ici, dans ce podcast, on pourrait me dire « Ouais, t'as dit ça, c'est faux, c'est n'importe quoi, t'es débile. Peut-être j'ai dit un truc débile à l'intérieur. » On engage nos responsabilités quand on parle. On réfléchit avant de parler. On se documente, on lit, c'est notre métier. Faites-nous confiance. Mais c'est correct que vous posiez des questions et c'est correct qu'on vous réponde. Donc, encore une fois, Eric, merci pour tout ce que tu fais.
Merci, Élie. Et puis, vous avez tous des pédiatres. Si vous avez besoin de conseils spécifiques pour vos enfants, bien entendu, ici, nous donnons des conseils généraux. S'il y a des questions spécifiques, adressez-vous à vos pédiatres. Merci d'avoir participé et à la prochaine.
Ciao.
J'espère que vous avez apprécié comme moi la générosité et le génie du docteur Élie Haddad. Docteur Haddad sera dans 2 ans le premier Canadien à occuper le poste de président de la Société immunologique de l'Amérique du Nord. Quelle générosité, quelle simplicité. Merci Élie Haddad de cette heure agréable passée en ta compagnie. La semaine prochaine, je m'entretiens avec le docteur Mathieu Nadeau-Vallée, que vous connaissez sous le nom de docteur TikTok ou Walmart Justin Trudeau. On va adresser sa lutte contre la désinformation. Alors, j'espère que vous avez apprécié la formule. Laissez-moi savoir sur Facebook. Abonnez-vous pour les prochains podcasts. Et puis, ça me fera plaisir de vous accompagner.